Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kallmann et aujourd'hui je vous parle de l'Eurovision, bien plus qu'un concours musical. L'Eurovision est le théâtre de tensions géopolitiques. Ce show dit beaucoup sur la manière dont les États se positionnent. Cette année, Israël a failli ne pas être sélectionné. L'Eurovision est apolitique, du moins dans son règlement.
Rien ne va plus pour le concours. Israël menace de se retirer si on lui demande de changer sa chanson.
Dansant dans l'orage, nous n'avons rien à cacher. Ramène-moi à la maison et laisse le monde derrière. Et je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Je suis toujours mouillée par cette pluie d'octobre, pluie d'octobre. Les paroles ne mentionnent pas ici explicitement les attaques des terroristes du Hamas le 7 octobre, qui ont fait plus de 1200 morts. Mais la question est de savoir si elles sont politiques. Car le règlement est clair, aucune parole, aucun discours, aucun geste de nature politique n'est permis. Nous sommes fin février 2024. Lorraine de Susbiel, dans Première édition sur BFM TV.
L'UER, l'Union Européenne de Radio-Télévision, qui est l'organisateur du concours, a déclaré être en train d'examiner les paroles et n'avoir pas pris encore de décision. Ils ont juste dit, si une chanson est jugée inacceptable pour quelque raison que ce soit, les radiodiffuseurs ont la possibilité de soumettre une nouvelle chanson ou de nouvelles paroles, donc ils peuvent changer conformément au règlement du concours.
Finalement, quelques semaines plus tard, on apprend qu'Israël participera bien à la compétition. Mais pour ce faire, le pays a dû changer les paroles de sa chanson. Et cela à deux reprises. D'October Rain, le titre est passé à Hurricane, qui veut dire ouragan. Bébé, promets-moi que tu me prendras à nouveau dans tes bras. Je suis encore brisée par cet ouragan. Voilà ce que chante Eden Golan. Dans le clip, autour d'elle, des personnes dansent sur une étendue verte. En fait, dès le mois de décembre, plusieurs pétitions d'artistes de pays nordiques ont appelé à l'exclusion d'Israël, après l'offensive de l'État hébreu sur Gaza. Yanis Schwitter sur bfmtv.com.
L'Islande et la Finlande ont par exemple menacé de ne pas participer si l'État hébreu concourait à l'Eurovision 2024. Effet rare, des candidats dont les représentants du Royaume-Uni, de la Norvège et du Portugal ont parlé d'une même voix dans un communiqué en mars dernier. Ils mettent en avant le pouvoir unificateur de la musique et appellent à un cessez-le-feu et au retour de tous les otages.
Bref, la route d'Israël jusqu'à l'Eurovision 2024 aura été tortueuse. Mais jamais l'exclusion d'Israël n'a été envisagée par l'organisation de l'Eurovision, contrairement à la Russie. Nous sommes en 2022 et nous y reviendrons un tout petit peu plus tard. L'Eurovision est créée en 1956, après la Seconde Guerre mondiale, et le message à l'époque est déjà politique. Fabien Randan, journaliste culture au journal 20 minutes.
Le continent est encore traumatisé par la guerre, il est en pleine reconstruction et les instigateurs de l'Eurovision ont cherché un événement qui soit capable de fédérer les peuples autour d'un projet commun, de représenter les différentes cultures, donc la musique est un moyen formidable pour ça, et le tout dans un esprit pacificateur.
Pour l'anecdote, et j'ouvre ici une petite parenthèse, en 1958, la France gagne l'Eurovision grâce à André Claveau et sa chanson « Dors mon amour ».
Dors mon amour, le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour...
En 1960, la France gagne encore grâce à Jacqueline Boyer et son Tom Pilibi.
Tom Pilibi a deux châteaux, le premier en Écosse. Tom Pilibi a deux châteaux.
Deux ans plus tard, victoire encore avec la performance d'Isabelle Aubray et sa chanson « Un premier amour ».
Un premier amour, premier amour, premier amour. Ne s'oublie jamais, s'oublie jamais, s'oublie jamais.
Il faudra ensuite attendre 1969, la France gagne ex aequo avec l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 1977 marque la dernière victoire de la France avec Marie-Myriam, l'oiseau et l'enfant.
Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau, beau le bateau.
Allez, je ferme cette longue parenthèse, mais maintenant, eh bien vous savez que la France a gagné 5 fois l'Eurovision. En 2022, comme je vous le disais un peu plus tôt, une décision hautement symbolique est prise à l'égard de la Russie. Le pays est tout simplement exclu du concours de l'Eurovision en raison de l'invasion de l'Ukraine. Cette année-là, c'est justement l'Ukraine qui gagne le concours.
Ukraine ! Un triomphe très politique sur scène à Turin. Et une victoire qui résonne pour tout un peuple en guerre.
S'il vous plaît, aidez l'Ukraine et Mariupol.
Hier, le groupe ukrainien Kalush Orchestra, grand favori de l'Eurovision, a décroché la première place, suscitant l'immense joie du présentateur ukrainien. Retranché pour commenter le concours.
Juste après sa victoire, le groupe ukrainien diffuse le clip de sa chanson.
Une chanson dont le clip est mis en scène dans les ruines de Boutcha, devenu le symbole des souffrances ukrainiennes.
L'année d'après, 2023, toujours en raison du conflit, le concours s'est tenu au Royaume-Uni, à Liverpool, malgré la victoire ukrainienne en 2022. C'est donc la Suède qui a gagné et qui organise cette année le show à Malmö. Bonjour Quentin Mauduit.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à Paris 1, auteur d'un mémoire de recherche sur l'analyse sociopolitique de l'Eurovision, c'est précis, membre de 12 points, c'est le podcast qui décrypte l'Eurovision et que l'on peut retrouver sur toutes les plateformes de podcast. L'Eurovision a un règlement très clair, il stipule qu'aucune parole, aucun discours, aucun geste de nature politique n'est permis. La participation d'Israël était pour ce 68e concours soumis à conditions. Ça semblait plutôt mal engagé. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Tout à fait. En fait, la première chanson que la candidate israélienne Eden Golan a envoyée à l'Union européenne de radio-télévision a été retoquée. Elle intégrerait un message trop politique, notamment dans son titre, qui était au tout début appelé « October Rain », qui était une évocation très directe des attaques du 7 octobre 2023, perpétrées par le Hamas. Et donc l'UER a demandé à Cannes, le télédiffuseur public, de changer les paroles de la chanson pour réduire ce message trop politique. Dans un premier temps, le télédiffuseur public israélien a refusé de changer les paroles, mais a proposé une seconde chanson, qui de nouveau a été refusée car trop politique. Et in fine, le télédiffuseur israélien a accepté de modifier les paroles et notamment le titre de la chanson qui se transforme en Hurricane dorénavant, avec quelques changements de paroles.
Hurricane, ça veut dire ouragan.
Exactement, ouais. La tempête. Avec cette modification-là, l'UER a accepté la chanson d'Eden Golan.
L'UER, qui est l'Union Européenne de Radio-Télévision.
C'est ça, en fait, c'est une association privée de tous les télédiffuseurs publics en Europe, donc par exemple France Télévisions en France, la BBC au Royaume-Uni, la RAI en Italie. Et c'est une association qui, certes, organise le concours Eurovision, mais pas que. Notamment, c'est un organisme qui négocie les droits sportifs, ou en tout cas les droits des grands événements internationaux, et qui ensuite les revend à tous ses membres télédiffuseurs, comme par exemple les droits télévisés des Jeux Olympiques de 2024, qui ont été achetés par l'UER au CIO et qui ensuite sont revendus avec un rabais financier à ces télédiffuseurs membres.
Parce qu'on le rappelle, l'Eurovision, c'est des dizaines de millions de téléspectateurs.
Ben, chaque année, je crois qu'environ il y a à peu près 200 millions de téléspectateurs qui regardent en tout cas la finale du concours. Donc c'est l'un des événements télévisuels qui fait les meilleures audiences, mis à part le sport.
Dans d'autres pays de l'Eurovision, il y a des chanteurs qui ont aussi demandé la suspension d'Israël en raison du conflit à Gaza.
Tout à fait. Vous avez donc des chanteurs suédois, des chanteurs islandais qui ont fait des pétitions pour demander la suspension d'Israël cette année pour la raison de la guerre déclenchée par Israël contre la bande de Gaza, enfin sur la bande de Gaza.
Ce genre de pétition pour demander à un pays ou à un autre de se retirer du concours, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'Eurovision ?
C'est déjà arrivé, alors de manière moins intense que cette année, mais il y a déjà eu des évocations très politiques et du travail de lobbying, en tout cas d'une demande de lobbying pour exclure des pays. On l'a vu d'ailleurs avec la réussite de ce travail de lobbying en 2022, quand la Russie a été exclue non seulement de l'Eurovision, mais totalement de l'Union européenne de radio-télévision. C'était notamment parce que les Norvégiens, les Suédois, en tout cas les Scandinaves, ont fait du lobbying pour exclure très rapidement la Russie du concours.
Cette année, la Russie est présente ?
Non plus. Elle a été totalement exclue de manière définitive au concours, de même que la Biélorussie, puisque, en raison en tout cas de la guerre déclenchée en Ukraine et du fait que son télédiffuseur public ne respectait pas la charte et les valeurs de l'Union européenne de radio-télévision.
Et l'Eurovision était regardée en Russie ?
C'était regardé et ça faisait plutôt des bons scores. Et la Russie d'ailleurs utilisait de manière très stratégique ce concours en envoyant certaines années des messages, en tout cas des chansons avec des messages politique ou en tout cas politisé, notamment pour améliorer son image sur la scène européenne, pour expliquer que c'était un pays ouvert d'esprit, moderne, mais personne n'était vraiment dupe de cette stratégie de la part de la Russie.
Est-ce que quand on est dans le public, dans l'ambiance de ce concours, je parle sur place, est-ce qu'on ressent les tensions entre les supporters des pays, entre les candidats eux-mêmes, notamment cette année ?
Alors cette année, je ne sais pas encore, mais en tout cas pour les années précédentes, non, sur place, c'est plutôt une ambiance très bon enfant, de la franche camaraderie, on peut parler des chansons, on peut évoquer on va dire se chambrer entre guillemets entre pays, mais il n'y a pas de tension politique manifeste entre personnes qui aiment le concours et qui sont sur place.
Il y a quelques jours, j'ai entendu dans un reportage qui était diffusé sur France Info, un fan de l'Eurovision, franco-israélien, il disait qu'il manquerait pour rien au monde le concours en Suède à Malmö. Israël qui a déconseillé il y a quelques jours à ses concitoyens de se rendre sur place. Et dans le reportage, il disait « J'ai déjà prévu de parler en anglais avec mes amis ». C'est quand même inquiétant et c'est particulièrement à risque cette année.
En tout cas, c'est ce qu'ont déclaré les organisateurs suédois du concours. Ils ont précisé qu'il y avait une menace terroriste, en tout cas d'attentat assez élevée, avec un dispositif policier qui est clairement renforcé déjà dans les rues de Malmö et partout en Suède, et avec des consignes de sécurité encore plus drastiques que les années précédentes, notamment en termes de bagages, de taille de bagages, où en fait littéralement on a le droit à aucun bagage, même dans la salle, voilà, pour encore une fois pour minimiser le risque, pour minimiser la potentialité. D'ailleurs, de nombreux événements en parallèle du concours ont été annulés ou réduits en taille, notamment la rue de l'Eurovision qui était prévue d'être une sorte de rue festive et de convivialité, qui a été totalement annulée parce que le dispositif policier n'était pas suffisamment disponible pour pouvoir sécuriser cette rue entière dans Malmö.
Et la candidate israélienne, on imagine qu'elle est particulièrement surveillée, elle aussi.
Surveillée et protégée. Et d'ailleurs, la candidate, enfin en tout cas la candidature israélienne, le télédiffuseur israélien a annoncé que Eden Golan resterait à son hôtel pour tous les événements pendant toute la durée de sa présence à Malmö, à l'exception bien entendu du moment où elle pourra aller chanter ou faire des répétitions pour sa performance. Mais le reste du temps, dans tous les événements publics, elle ne pourra pas venir en public à la rencontre des spectateurs.
Ces conflits qui existent en marge de l'Eurovision, est-ce que ça a toujours existé ? Est-ce que la sociologie politique, c'était l'objet de votre mémoire, ça a toujours existé en marge de l'Eurovision ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà du conflit de ces années entre Israël et la Palestine, depuis presque les débuts du concours, le concours est en fait une caisse de résonance d'événements politiques ou géopolitiques qui se passent en Europe, et certains pays utilise cette plateforme artistique et politique pour faire passer un message. Et ça a toujours été le cas dans les années 70, c'était entre Chypre et la Turquie. Dans les années 2000, vous avez vu en 2008 et 2009 la Géorgie par rapport à la guerre déclenchée par la Russie en Ossétie du Sud. Vous avez bien entendu l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui sont d'ailleurs toujours en conflit militaire, qui de temps en temps envoient des chansons avec des messages politiques très précis.
Cette année, ces deux pays seront encore présents ?
Cette année, ces deux pays sont toujours présents, mais leurs chansons n'ont pas d'évocation politique cette année. Mais les années précédentes, en tout cas, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il y ait un message politique soit contenu dans les paroles des chansons ou dans la mise en scène choisie par le pays. Et on peut surtout évoquer l'Ukraine et la Russie. En 2016, notamment, quand Jamala remporte le concours pour l'Ukraine, elle chante une chanson qui s'appelle 1944 et qui évoque la déportation des Tatars de Crimée par Staline pendant la Seconde Guerre mondiale. Et chanter cette chanson 2 ans après l'invasion par la Russie de la Crimée, c'est très clairement un message politique. Mais d'ailleurs, à l'époque, la Russie avait demandé à l'Union européenne aux télévisions de retoquer la chanson ou les paroles. Mais l'Union européenne aux télévisions avait déclaré que c'était une chanson historique, qui évoquait un événement historique réel. Et à ce propos, ce n'était donc pas une chanson politique. On voit que là, on marche sur une ligne de crête entre l'historique et le politique.
Une dernière question, qui n'est pas géopolitique, celle-là. Est-ce que la France a une chance de gagner avec Slimane, qui la représente cette année ?
Si on en croit les bookmakers, en tout cas les parieurs, les spécialistes du concours, il est classé dans les 5 premiers en termes de pronostic. Et la chanson, en tout cas, va assurément plaire au jury, puisque vous le savez, en finale, il y a un vote à moitié-moitié entre le vote du public et le vote du jury professionnel. Vu la voix de Slimane, vu sa performance vocale, le jury semble, on va dire, va probablement adorer ce genre de performance. Reste l'inconnu du public européen. Est-ce que le retraité moldave, est-ce que l'infirmière bulgare, est-ce que voilà, des habitants de partout du continent seront touchés par la performance de Slimane? Moi, je pense que ça peut tout à fait bien fonctionner. De la gagner, je croise les doigts, mais en tout cas, ça, on peut espérer un beau classement.
Merci beaucoup, Quentin Maudvy. Je rappelle que vous êtes membre du podcast 12 points, podcast qui décrypte parfaitement l'Eurovision et que l'on peut retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Merci à vous.
Merci à vous.
Et merci à Marie-Aimée qui travaille avec moi quotidiennement sur ce podcast du Titre à la Une. Je voulais aussi vous remercier, vous les auditeurs du Titre à la Une, puisque au mois d'avril, eh bien, nous avons signé un mois record d'écoute. Nous frôlons le million d'écoutes, donc merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir et merci aussi à tous les intervenants. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast au Titre à la Une. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas non plus à le noter et à le commenter sur toutes les plateformes. À très vite.